débat mouvant radiophonique.
C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat.
Conception et montage Claire Bigeau pour le Radio Sound.
Comment il a cavalé le normalien.
C'était à la journée du séminaire Cirasti, Expo Sciences Occitanie, ce 22 novembre 2019 au Crige à Toulouse. Il y avait Simon, Pierre, Anne, Albal, Romain et David. Merci à Lagi Amourou, au Rêve 31, à Migado, au Petit Débrouillard, au Franca, à Inconnu.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la Marche du siècle, 85e édition. Ce soir, ce sera un grand cri d'alarme. L'homme que nous recevons est depuis 3 ans le plus populaire de France, sans défaillir, devant l'abbé Pierre et devant le professeur Schwarzenberg. Il y a d'ailleurs une logique dans ce trio de têtes. Et lui aussi, sa popularité, il s'en sert. Il s'en sert pour tyranniser les grands de ce monde et dire que la Terre court à sa catastrophe, mais aussi que l'humanité, qui borne son regard sur le très court terme, est en train de fabriquer sa perte, et cela par aveuglement. Cet homme, c'est M. Jacques-Yves Cousteau, 81 ans, et vous allez voir quelle forme. Vous repartez vers un combat qui est quelque chose d'ailleurs qui me semble énorme, car vous dites qu'au fond, ces pollutions dont nous parlons, celles dont nous allons parler tout à l'heure, qui touchent par exemple d'autres secteurs, certes c'est grave, mais ça n'est pas fondamental, car pour vous, il y a un autre combat fondamental. Quel est-il ?
Ben oui. La raison de tous nos soucis, c'est le fait que notre société nous apprend à ne vivre qu'à court terme. Et ipso facto, les décisions sont prises à court terme. Les hommes politiques sont obligés de ne considérer que leur mandat, parce qu'il faut qu'ils soient réélus. Donc ce qui se passe après, c'est après nous le déluge. Et en ce qui concerne les hommes, les décideurs de l'industrie, c'est pire, parce qu'ils ont une assemblée générale tous les ans, et ils peuvent être renversés. Il faut donc apporter à l'assemblée générale des résultats positifs à court terme, d'une année à l'autre. Regardez ce qui est arrivé à Philips, le président a failli sauter, etc., etc. Il n'y a pas de marge de décision, tout doit être fait à court terme. Donc c'est de ça que nous souffrons. Je remonte mes manches de chemise et je me dis maintenant il faut apprendre aux gens à raisonner à long terme. Parce que l'avenir de nos enfants, l'avenir de ces gamines et de ces gamins, c'est ça, hein. C'est le long terme, c'est pas le court terme.
Et sur le long terme, quelle est la principale menace pour vous ?
Eh bien, il faut d'abord que soient déclarés aux Nations Unies les droits des générations futures, de même qu'on a déclaré les droits de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui se moquaient des droits de l'homme en disant « ça sert à rien, c'est une déclaration, etc. » Pas du tout. Regardez, on s'en sert comme d'un levier, d'un point d'appui pour des choses qui se passent par exemple en Afrique du Sud et bien dans bien d'autres endroits. Finalement, on a un point d'appui. À partir de ce moment-là, on peut jouer avec un levier, le levier de l'opinion publique, le levier de la puissance politique, etc. Oui. Donc c'est ça. Si on obtient une déclaration des droits des générations futures, on pourra agir en se servant de ce nouveau point d'appui pour le long terme.
Encore l'actualité, l'Antarctique, le 29 avril 1991, les gouvernements cèdent ou accèdent à votre demande, c'est-à-dire que l'exploitation minière dans ce continent est gelée pour 50 ans. En janvier 1990, Cousteau et 5 enfants débarquent là-bas.
Règle du débat. Sitôt l'affirmation est mise, vous vous placez sur mon côté gauche si vous êtes d'accord et sur mon côté droit si vous n'êtes pas d'accord. Au centre coule la rivière du doute, très froide et peu confortable. Chacun émettra depuis sa rive son argument afin de convaincre ceux placés sur l'autre rive. Vous avez la liberté de changer d'avis. La phrase.
La transition écologique se joue entre les scientifiques et les politiques. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ? Oula, mais tout le monde n'est pas d'accord. Ben oui, c'est intéressant. Bon, alors, est-ce que tu veux commencer, justement? Tu dis ton prénom, si tu veux.
Bonjour. Vas-y. À tous, je m'appelle Romain. Je suis d'accord avec cette affirmation, parce que nous, pauvres citoyens que nous sommes, nous n'avons aucun rôle à jouer dans des questions aussi primordiales que celle-ci. La transition écologique n'est l'affaire que d'hommes politiques, principalement. Je veux parler des femmes politiques qui sont trop peu nombreuses pour que nous les considérions, et les scientifiques qui détiennent le pouvoir absolu et qui sont bien au-dessus des savoirs communs de la société actuelle. Voilà, donc vous pouvez vous leurrer et penser que vous avez un rôle à jouer dans ces vastes questions et dans le débat public, mais vous vous trompez.
Bonjour, tu Anne. Mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que du coup, je pense que l'opinion publique a son mot à dire et son rôle, un rôle important dans cette transition écologique. Voilà.
Bonjour, Alba. Je suis effectivement du même avis, dans la mesure où c'est très réducteur de penser que ça peut se jouer qu'entre deux acteurs. Surtout quand l'un des deux ne prend pas forcément toujours en considération l'avis public. Voilà.
Bonjour, moi c'est David. Je ne suis pas du tout non plus d'accord avec cette affirmation, parce que j'aurais rajouté que ça se joue entre les scientifiques, les politiques, les éducateurs et les citoyens.
Oui, et je pense, Pierre, je pense que l'affirmation n'est pas complète, effectivement. Je pense que le peuple a quelque chose à jouer, puisque bon, le latin disait vox populi, vox dei, donc... forcément, si ça va trop mal, le peuple, entre guillemets, va prendre des décisions à la place des politiques. Et ça commence à se voir ponctuellement de nos jours. Donc, et puis aussi, il y a quand même la transition écologique. Elle est naturelle, en fait, et la nature va décider peut-être d'elle-même ce qu'il faut faire, même si on n'est pas d'accord. Voilà.
Bonjour, moi c'est Simon. Alors j'étais plus dans la rivière du doute pendant un moment, mais je suis plutôt pas d'accord quand même, parce que oui, il y a ce truc de l'opinion publique qui peut faire changer les choses, et je pense qu'il y a les médias aussi surtout qui ont un grand rôle à jouer. Quand on voit les nouveaux sujets qui arrivent en grande ampleur aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux, grâce à Onet qui s'est libéré.
Par rapport à l'extrait, on a quand même eu Jacques-Yves Cousteau qui a réussi à mettre pendant 50 ans une protection sur l'Antarctique. Donc il a dû passer par des lois.
Alors, merci Claire, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que Jacques-Yves Cousteau, au moment de l'interview, a 81 ans. C'est-à-dire que le court terme pour lui, c'est très court. Voilà pourquoi il prend ce positionnement-là. Si je reviens sur les médias ou sur la nature, bon, alors les médias, effectivement, ont peut-être leur rôle à jouer. Les médias, qui tire les ficelles des médias, Claire?
Eh bien,
ce
oui.
sont les politiques. Ce sont les politiques. La nature, qu'est-ce qu'on en fait de la nature? Un coup de bulldozer et la nature, elle n'est plus là, la nature. Donc, je pense que, clairement, aujourd'hui, pour répondre à la question de la transition écologique, si on pense avoir un rôle à jouer, on se met le doigt dans l'œil, Claire. Voilà. À moins qu'on veuille monter au gouvernement, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais rester là-dessus. Merci.
Jacques-Yves Cousteau, il parle aussi, comme tu disais, Romain, du court terme, de la pensée à court terme et de la pensée à long terme.
Alors la question, pour moi, de la pensée à court terme ou à long terme, on n'est plus vraiment dans la question est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord, hein. Mais moi, je crois que ça réinterroge la durée de notre vie aussi, qui est quand même relativement courte, mine de rien. Et donc, on a du mal à penser à plus long terme que la propre échelle de notre propre existence. Je pense que c'est un peu l'obstacle majeur aujourd'hui, c'est qu'on est un peu centré sur nous, quoi.
Bah en fait, je commençais à me dire que peut-être j'allais changer de camp un tout petit peu. Mais pour un point, en fait, c'est très nuancé, on n'est pas genre blanc ou noir, mais juste pour dire qu'en fait, oui, il va falloir passer par les politiques et s'appuyer sur les conseils scientifiques, comme finalement Cousteau, c'est un scientifique assez connu et populaire, donc il y a aussi ce truc d'opinion publique quand même qui pesait derrière, mais il a joué sur les politiques. Du coup, il y a les deux poids à prendre en compte, je pense.
Voilà, après on a un personnage actuel, une étudiante, qui est quand même une citoyenne et qui essaye de faire évoluer les choses. Et elle a du mal justement avec les politiques, qui est Greta Thunberg. Voilà.
Oui, c'est Pierre. Oui, je reprends le micro parce qu'en fait, cette action là qu'elle fait, elle est issue du peuple en fait, comme on a dit tout à l'heure. Et donc c'est bien la volonté du peuple à travers elle qui va attaquer les politiques. Et donc c'est bien le maillon manquant à cette chaîne là. Je pense qu'il y a quatre acteurs dedans, c'est les politiques, les scientifiques, le peuple et la nature. Voilà.
Donc, donc Simon est convaincu et il revient dans le camp des pas d'accord.
Est-ce que derrière le phénomène Greta Thunberg, il n'y aurait pas un complot politique ? Voilà, une instrumentalisation de la jeunesse pour porter une voix vers les politiques, elles-mêmes dirigées par les politiques. Je vous pose la question.
Les personnes du pas d'accord, est-ce que vous pouvez répondre à Romain ? Est-ce qu'il y a quelque chose de politique dessous ?
Moi, je trouve que c'est un peu beau pour être vrai. Je suis désolé, mais...
C'est une question qui est relativement difficile à résoudre parce qu'on est à distance finalement et qu'on n'a pas la totalité des éléments. Donc on va se positionner, je crois, individuellement par rapport à un peu ce qui nous paraît le plus crédible finalement ou qui correspond le plus à ce qu'on a envie de croire. Voilà, donc on va avoir envie de croire que... finalement, tout ça, c'est les médias et une espèce de vaste complot où alors on va croire qu'en effet, il y a des citoyens qui se mobilisent et qui ont envie d'agir pour que les choses changent. Et je crois que c'est plus ça qui va faire qu'à un moment donné, aujourd'hui, on est en capacité de se positionner que les faits, parce que les faits, finalement, ils sont loin et qu'on ne les a pas à disposition. Après, elle n'est probablement pas seule, parce qu'en même temps, elle n'est pas toute seule dans cette histoire-là. Elle est entourée, il y a des gens avec elle. Alors après, quelles sont les intentions des personnes qui sont avec elle ? On ne sait pas vraiment parce qu'on ne les a pas rencontrées. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas me positionner là-dessus. Mais moi, j'ai encore envie de croire que voilà, les individus ils peuvent essayer de faire changer les choses et que, globalement, on peut avoir de l'espoir pour notre avenir ou l'avenir des citoyens qui viendront après nous. Ça n'empêche qu'en effet, on peut s'interroger, mais je crois que c'est soit... Alors c'est très compliqué pour moi de le dire parce que je suis plutôt athée, mais il faut avoir foi un peu à l'humanité, quoi, globalement.
On a envie d'y croire pour les générations futures et que c'est un bel espoir en l'avenir, quoi. C'est sûr que le fait que ça vienne d'une jeune, ça donne encore plus de poids en, voilà, en ce qu'on peut espérer pour nous et pour l'avenir.
D'accord, donc Romain reprend le micro pour conclure, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, pour conclure, je me porte un peu l'avocat du diable parce que bon, je suis entièrement pas d'accord avec cette affirmation, en fait. Et donc, je rejoins complètement David sur le fait qu'effectivement, bon, quand je parlais de théorie du complot, effectivement, il y a certainement des gens derrière et on ne sait pas qui c'est. On n'a pas forcément... Bon, en cherchant un peu, peut-être qu'on trouverait l'information. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est justement l'image que ça nous renvoie d'une citoyenne jeune qui porte un message fort face à des politiques. Si on le prend juste de cet aspect-là et que ça nous touche, eh ben, c'est le but. Donc tant mieux. En fait, je pense que cette affirmation-là, il y a une question d'échelle en fait, qui est importante. C'est-à-dire que d'un point de vue mondial, global, effectivement, on ne va pas être forcément impliqué. On ne se sent pas impliqué dans les décisions pour la transition écologique parce qu'en fait, c'est trop loin de nous. Et qu'on ne le ressent pas directement, c'est typiquement l'expérience de la grenouille dans l'eau chaude. Quoi. Enfin, si on fait bouillir l'eau, si on part d'eau froide et qu'on fait bouillir l'eau, elle va mourir dans l'eau. Si on la met directement dans l'eau chaude, elle va réagir tout de suite. Mais ce qui manque là-dedans, effectivement, c'est nous, c'est les citoyens. Et à une échelle mondiale, c'est difficile d'agir et c'est difficile d'être touché par ça. Mais je pense qu'il faut d'abord agir d'un niveau local et petit à petit, les localités vont former une globalité.
Voilà. Ok, merci. Très belle conclusion. Deuxième phrase. Quand on parle Antarctique, cela évoque Paul-Émile Victor, Jacques-Yves Cousteau, mais aucune femme. D'accord ou pas d'accord ? Je rappelle que à mon bras gauche est la rive du oui et du d'accord, et à ma droite est la rive du non, pas d'accord. Qu'au milieu coule la rivière du doute et qu'il fait froid. Et qu'il y a des cailloux. Eh bien, nous allons donner la parole à David qui est sur le pas d'accord et qui est tout seul du côté du pas d'accord. Il n'est pas d'accord sur quand on parle l'Antarctique, cela évoque Paul-Émile Victor, Jacques-Yves Cousteau et aucune femme.
Bah, oui, je ne suis pas d'accord parce qu'à la fois, que ce soit Paul-Émile Victor ou Jacques-Yves Cousteau, quand je les évoque, ça ne me parle pas tout de suite Antarctique. Voilà, c'est pas, ça ne fait pas partie des choses qui me viennent en premier. Et que, par exemple, on pourrait aussi se dire, oui, on les prend, eux, par rapport à un certain nombre de leurs actions, mais on pourrait aussi prendre, par exemple, Ségolène Royal, aujourd'hui, qui est ambassadrice des pôles pour la France auprès de l'ONU. Donc, on pourrait se dire qu'il y a des gens, et qui ne sont pas forcément que des hommes, qui s'occupent de ces questions-là. Et je dirais surtout que l'Antarctique, pour moi, c'est une terre d'exploration et de prospection scientifique. Et que dire que ça ne concerne aucune femme, ce serait penser qu'il n'y a aucune femme scientifique et qui passe son temps en Antarctique. Et je pense qu'il y en a. Pas autant que des hommes, probablement, parce que probablement que la proportion n'est pas la même. Mais je pense qu'il y en a quand même. Voilà.
Alors, est-ce que tu as réussi à convaincre ceux qui sont sur la rive du d'accord ? Alors, Romain ?
En fait, je rejoins David sur le fait que, effectivement, en fait, quand on me dit. Alors, Cousteau, un peu. Paul-Émile Victor, pour le coup, ça ne me parle pas. Donc, effectivement, en fait, quand on me dit Antarctique, j'ai pas forcément, à part Mike Horn, il y a rien qui me vient forcément en tête, exactement comme nom de personne connue. Je suis aussi d'accord avec le fait qu'il y a certainement, très certainement, des femmes qui.
Alors, tu vas passer de l'autre côté.
Disons que je suis pas. Si on reste sur l'affirmation à proprement parler, bon, bah, je suis plutôt dans le oui d'accord parce que pour moi, bon, voilà. Cousteau, Mike Horn, c'est des hommes. De toute façon, dans la recherche scientifique, c'est malheureux à dire, mais je suis plutôt d'accord avec ça. D'un point de vue global, c'est que si on parle d'aspects scientifiques et d'hommes et de femmes scientifiques, bon, bah, forcément, la place de la femme en science commence à être reconnue, et j'espère que ça va l'être encore plus plus tard, mais pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Et donc, du coup. Aux prémices de la découverte de l'Antarctique, l'exploration de l'Antarctique, effectivement, moi, il n'y a aucun nom de femme qui me vient à l'esprit parce que, tout simplement, je pense qu'il n'y en a pas eu des masses, malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis dans le oui d'accord et je suis bien ici.
Bon, bien, tu peux passer le micro à Anne, alors ?
Anne, quand j'ai lu la phrase, du coup, j'étais sur oui d'accord parce qu'effectivement, il n'y avait aucun nom de femme qui me venait en tête. Mais je change un petit peu d'avis puisque David nous a parlé de Ségolène Royal et effectivement c'était pas un truc qui m'était revenu en tête, mais merci de nous le souligner.
Donc voilà, Anne est passée sur la rive du pas d'accord.
Moi oui, je suis d'accord, peut-être par ignorance parce que je pense qu'il doit y en avoir quand même. Bon, le cas de Ségolène Royal, il est un peu critiqué aujourd'hui. je ne sais pas si vous avez lu Canard enchaîné de cette semaine. Bon, voilà, je reste sur oui, pas d'accord, mais peut-être parce que je ne suis pas assez documenté. Quand même, il y a eu des expéditions, je pense, mixtes, où il y avait des bateaux avec un équipage mixte, enfin, où il y avait quand même quelques femmes. Mais bon, après, si on prend les grands noms, effectivement, bon, c'est un état de fait. Voilà.
Moi c'est un peu pareil, je me suis mis dans le oui d'accord plutôt par ignorance parce qu'en fait il n'y a aucun nom qui me venait, heureusement qu'il y a écrit Paul-Émile Victor et Jacques-Yves Cousteau qu'on vient d'entendre, mais pour moi ça évoquait ni femme ni homme, alors du coup forcément j'étais d'accord avec le fait que ça m'évoque aucune femme, mais il y avait forcément des personnages féminins comme masculins associés à la découverte de l'Antarctique ou même au combat qu'il y a actuellement, ça je pense que oui.
Alors, moi, je vais plaider un petit peu coupable parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une émission où une femme s'exprimait sur le réchauffement climatique. Or, je n'étais pas d'accord avec elle. Du coup, je vais quand même dire son avis. Il s'agit de Julie Graziani, donc éditorialiste, qui avait affirmé que le réchauffement climatique avait du bon et du positif dans la mesure où ça pouvait permettre, grâce à la fonte des glaces, certains échanges commerciaux qui n'avaient pas lieu dès lors, enfin jusqu'alors, et qui pouvaient avoir lieu grâce à... Voilà. Donc c'est des propos assez extrêmes qui sont difficiles à entendre et dont je ne peux pas être vraiment fière en tant que femme d'entendre ça d'une autre femme. Voilà. Je préfère effectivement ne pas affirmer que c'est un avis scientifique ou enfin, un avis sur la question. Voilà.
D'accord. essayer d'argumenter pour faire venir d'autres personnes. C'est bien, déjà David, t'as fait venir Anne sur la rive du pas d'accord.
Alors, je sais pas si j'ai d'autres arguments, mais j'ai quand même entendu qu'on reconnaissait le fait qu'il y avait des femmes scientifiques aussi et que de toute façon, peut-être on n'en avait pas entendu parler ou qu'on ne s'était pas assez documenté, donc je pense qu'il y en existe. Alors c'est pas parce qu'on quand on parle d'Antarctique, en effet, on ne sait pas exactement qui passe son temps là-bas ou qui l'explore ou qui fait des recherches là-bas. Je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation, parce que ça voudrait dire que l'Antarctique, c'est une zone réservée aux hommes, entre guillemets, et qu'on se dirait que c'est une zone qui est trop hostile pour les femmes, ou j'en sais rien. Et ce simple fait me dérange, donc je pense que c'est quelque chose qui peut être un sujet d'étude, autant pour des hommes que pour des femmes, et donc je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Voilà.
Est-ce que ça vous convainc un peu? Est-ce que vous restez sur votre berge? Oui.
Oh non, ils ont décidé de faire les... Et têtu et de ne pas bouger.
Simon réfléchit, eh bien oui, parce que c'est un peu générationnel aussi, c'est vrai, Jacques-Yves Cousteau, ouais. Il faut déjà avoir vu, entendu ce qu'il a fait, qui n'a pas été non plus...
Qui n'est pas que... ouais, qui ne fait pas partie que des choses extraordinaires qu'a pu faire l'humanité dans sa façon d'aborder la nature non plus, donc... Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis là, dans l'extrait qu'on a entendu, donc, il se propose aussi de faire des droits de génération. Et c'est vrai que les droits de génération pour les années futures, pour protéger la Terre, elles peuvent être aussi critiquées.
Moi, je dirais que personnellement, enfin, pour l'instant, je suis d'accord, mais ça va évoluer vers le pas d'accord. Enfin, c'est inéluctable. Bon, après, d'une manière anecdotique, je dirais que les filles ont toujours froid, donc peut-être c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Hein, si.
Alors, en fait, voilà. Les hommes ne sont pas frileux, c'est bien connu. Être un homme n'est pas...
Oui, mais c'est notre catégorie.
Alors David, une note on ne peut pas t'entendre, hein. Puisque tu n'as pas le bâton de parole. Et donc, je pense que, vas-y, Pierre, tu peux lui donner.
Non, David. C'était ma...
Oui, mais bon, vas-y.
Les populations inuites ne sont pas exclusivement masculines, sinon elles auraient disparu depuis longtemps. Et, et quand même, mais il y aura en Antarctique, l'avantage c'est qu'en effet il n'y a aucune population autochtone. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a que des gens qui vont s'y installer dans des bases qui sont relativement petites. Il y a une mixité dans le règne animal en Antarctique, si jamais vous en doutiez.
Et en fait, l'Antarctique, c'est l'endroit le plus froid de la Terre. Il peut faire moins 80.
Là, je reviens un peu vers le radioamateurisme. Il y avait des stations radio, des missions militaires, on va dire, pour occuper le terrain un peu, qui étaient d'origine soviétique, autant sur le nord que sur le sud. Et quand il y a eu l'effondrement du système communiste en Union soviétique, tout a été chamboulé. Et donc, il n'avait plus d'argent pour aller faire fonctionner ces bases. Et donc, il s'est trouvé des équipes militaires qui étaient mixtes à l'époque, hein, qui n'arrivaient plus à rentrer chez eux, quoi. Et donc, il lançait des appels plus ou moins désespérés, entre guillemets, sur le monde occidental, pour voir s'il n'y avait pas des bateaux qui pourraient les rapatrier, parce qu'ils étaient vraiment quasiment abandonnés. Et c'était des équipes mixtes. Alors, je n'ai pas les noms, mais...
Mais donc, Pierre va rejoindre quand même la rive...
Oui, je peux... Enfin, c'est une autre anecdote, mais en fait, qui prouve bien qu'il y avait des femmes aussi qui étaient... Voilà.
Très bien. Allez, on continue de jouer à troisième affirmation. L'Antarctique est protégée contre les prospections minières. D'accord ou pas d'accord? Est-ce que...
Moi, je suis d'accord. Ce qu'avait dit Cousteau, c'est d'avoir, de rendre neutre ce pays sans exploitation minière d'aucune sorte, hein. Enfin, sur une périphérie déterminée, hein, mais voilà, un peu comme sur la Lune, en fait, hein. C'est la même chose. Hein. Voilà, donc je suis d'accord, moi.
Ok, alors, dans ma rivière du doute, j'ai Romain, David et Simon. Tu es dans le doute? Vous pouvez douter, mais après, il va falloir prendre une position.
On parle d'Antarctique, alors moi, je suis prêt à me geler et je vais rester dans la rivière du doute, même si elle est très froide, parce qu'en fait, ma connaissance me fait me dire que oui, c'était protégé, mais je ne suis pas sûr que ce soit pas en train de changer. Alors, prospection minière, c'est regarder s'il y aurait du minerai dessous. c'est pas forcément exploitation minière. Et je crois qu'on prospecte quand même relativement régulièrement, puisque ça fait partie de certaines missions scientifiques. Donc j'aurais tendance à dire que je suis pas d'accord, et je suis d'accord, mais donc je vais rester là et me peler.
Tu vas avoir très très,
très froid.
Froid.
Mais bon, on parle d'Antarctique
ouais,
alors.
Ouais.
Mais
moi j'en sais rien du tout en fait. C'est pour ça que je me suis mis là. Je rejoins David sur le fait qu'effectivement il y a de la prospection parce qu'il y a des expéditions scientifiques là-bas. Du coup, ils prospectent sans forcément d'intérêt économique ou quoi que ce soit derrière, mais uniquement pour le savoir scientifique. Après, est-ce que ça ne deviendra pas la prochaine terre exploitée ? J'en sais rien. Voilà, je ne sais pas trop, donc je me suis mis là et je pense que je vais rester là aussi. Voilà.
Alors Simon ne veut plus se mouiller et il est allé sur la berge du pas d'accord. Donc tu n'es pas d'accord que l'Antarctique elle est protégée contre les prospections minières.
Mais ouais, finalement j'ai été convaincu par ceux qui doutent, c'est ça qui est le plus marrant. Mais que la prospection minière à mon avis, ouais, elle a bien lieu de par les cartographies faites par satellite, tout ce genre de choses. Enfin je ne connais pas tout niveau technique. Et en fait il faudrait changer la phrase, c'est l'Antarctique est à protéger, dans le sens où il faut continuer continuellement à la protéger quoi. Elle n'est pas forcément protégée dans le sens où il y a toujours des envies d'avoir des ressources un peu partout ouais, sur Terre.
Je voulais juste rajouter que peut-être au rythme où ça va en fait, enfin bientôt il n'y aura plus de glace et là peut-être qu'on se dira bon bah bingo quoi, on y va quoi.
C'est ce qui se passe dans l'Arctique, comme disait tout à l'heure, rappelle-moi ton prénom, Alba. Où justement il y a des transferts de marchandises qui ont cassé cette glace. Du coup, la glace, elle ne se reforme pas. C'est une problématique. On va passer dans le d'accord avec Anne.
Oui, Anne, ben moi je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore protégé. Donc c'est pour ça que je suis dans le oui d'accord. Et j'espère que ça va l'être longtemps, mais j'espère que je ne me trompe pas surtout.
Moi je rejoins Anne sur surtout le fait d'espérer que ce soit le cas. Après, je ne sais pas.
Je suis d'accord aussi. Enfin, moi, j'ai vu des émissions où il y a quand même des prospections, mais c'est géologique. En fait, ils font des carottages pour voir ce qui se passait il y a 3-4 000 ans, là, étudier les épaisseurs de glace. Alors, peut-être que c'est un prétexte aussi. Hein, peut-être qu'après, les échantillons, ils sont récupérés par Google ou je ne sais pas qui. Enfin, bref. Donc, voilà. Mais enfin, pour l'instant, je pense que... C'est changé, quoi. Voilà.
Alors, dans l'extrait qu'on a entendu, donc Jacques-Yves Cousteau disait qu'ils avaient réussi à mettre une protection pendant 50 ans. C'était en 1991 qu'il ne pourrait pas y avoir des forages pour récupérer des minerais comme de l'or, puisqu'ils ont trouvé, entre autres, de l'or en Antarctique par des petites prospections, par des scientifiques.
Alors, moi, je vais rester encore au milieu, sauf si on change la phrase, parce que oui, je suis d'accord pour qu'elle soit protégée. Et je ne suis pas tout à fait d'accord pour être sûr qu'elle est vraiment protégée, parce que si ça ne dure que 50 ans, ce n'est pas de vitam. Ça veut dire que il nous reste quoi, 20 ans de protection, là, globalement. Une grosse vingtaine d'années, et en 2040, 2050, le climat aura bien changé. Et donc, en effet, la question ne sera pas la même, probablement. Et donc, je pense que ce ne sera pas protégé indéfiniment.
Donc tu vas alors peut-être te situer vers le nom. Tu veux rester quand même dans l'eau froide.
Alors,
d'accord.
Moi, ce que David il vient de dire, ça me renforce encore de mettre du côté du nom. Parce que, en fait, d'un point de vue géographique, en ce moment, on parle beaucoup de transition écologique, etc. Et du coup, on protège nos territoires. Donc voilà, le gouvernement français a protégé son... territoire français, donc voilà, il y a des parcs nationaux, des zones protégées, etc. Je pense qu'une fois effectivement que la protection sera levée, entre guillemets, si elle n'est pas renouvelée, en fait, ce qui va se passer, j'espère pas, hein, mais ce qui est possible, c'est que en fait, on se dise, bon, bah voilà, là-bas, c'est pas chez nous, c'est quelque chose qui nous touche absolument pas, et du coup, on fonce, on récupère tout ce qu'on peut là-bas, et basta, on fait notre travail de protection chez nous, par contre... Voilà, en terre neutre, entre guillemets, on peut y aller, quoi. Moi, c'est un peu la crainte que j'ai à moyen terme, du coup, parce que 20 ans, c'est vraiment pas très long.
Est-ce que ça a convaincu ceux qui sont sur la rive du... Non, ils restent dans le... Eux, ils sont convaincus que ce pro sera protégé. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un argument ? David, donc toujours les pieds mouillés, de l'eau jusqu'au cou, voilà, ok. C'est la fonte des glaces. Oui, on est dans le torrent. En tout cas, je vous remercie pour ce débat mouvant qui était spécial. Jacques-Yves Cousteau, qui est à la fois un militaire et peut-être un scientifique, mais un inventeur qui a fait quand même l'invention du scaphandre. C'est pour ça autonome, voilà. Qui a fait aussi la caméra immergée, entre autres. Donc on a quand même des apports et qui a commencé à ouvrir aussi les interrogations sur l'écologie et sur notre transition sur le changement de climat. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.
Débat mouvant radiophonique. Merci aux Criches de Toulouse, à l'AGI Amourou, au Rêve 31, à Migado, au Petit Débrouillard, au Franca, à Inconnu et au Cirasti Expo Science en Occitanie. Extrait de la Marche du siècle, musique du générique Multitude 2 par Delta Will. Conception et montage Claire Bigeot par le Radi Sound.